Desde que yo volé. El último que me pagó y fue a meter de este. Pero que no tenía un paso para que me dijo que tenía que ser muy fácil. El herido fue muy difícil. Marie à l'Annonciation, à l'ange, qu'il me soit fait selon ta parole. Marie ne répond pas, oui, j'accepte d'être la mère du Fils de Dieu. Là, elle aurait répondu selon ce qu'elle a compris. Tandis qu'elle répond en adhérant pleinement au message de Dieu. Je fais par Gabriel, qu'il me soit fait selon ta parole. ça n'a l'air de rien, et c'est très important aujourd'hui, surtout. On réduit très facilement notre adhésion de foi à ce que nous comprenons de la foi, ce qui n'est pas juste. Parce que par définition, la foi nous fait adhérer au mystère de Dieu qui nous est révélé, et non pas à ce que nous comprenons du mystère. Au plan philosophique, on répond selon la compréhension qu'on a. Puisque au plan philosophique, c'est fait pour éveiller notre intelligence à essayer elle-même de comprendre la profondeur de nos expériences humaines et d'aller jusqu'au bout de la profondeur de nos expériences humaines. Donc, nécessairement, on communique ce qu'on a compris. Si on a compris profondément, on ne diminue pas la vérité. Si on a compris d'une façon superficielle, on diminue la vérité. Quand il s'agit de la foi, c'est la connaissance des tout petits. C'est la connaissance de ceux qui acceptent de ne pas comprendre. Un peu les tout petits. C'est la plus grande petitesse évangélique. On y reviendra. Accepter de nous laisser conduire par l'Esprit Saint. Sans avoir de projet humain. On en a toujours un peu. On accepte d'être conduit par l'Esprit Saint. Là, où il veut nous conduire. Quand tu étais jeune, tu te conduisais toi-même. Quand tu seras vieux, un autre te conduira. On laisse l'Esprit Saint nous conduire. On laisse Marie nous conduire. On accepte d'aller au-delà de ce que nous comprenons de la parole de Dieu. On adhère au mystère. C'est tellement important, ça. Bien, le cerveau sapientiel nous permet de communiquer les secrets de Dieu. Et c'est le premier des tarifs. C'est un point très net. Le tarif qui regarde la foi. Et la communication de la foi. C'est un point énumère. Tous les charismes selon un certain ordre. Je ne veux pas prier dans le monde. Ça pose que c'est un ordre révélé. C'est l'ordre que prendra le théologien. Les charismes ne sont pas, tous le même niveau d'importance. Et ça pose souligne que les charismes sont toujours pour l'utilité de la communauté chrétienne. On a besoin de charisme pour les autres, pas pour soi. Pour soi, c'est une vertu dialogale. Il permet d'être à l'école de Dieu, à l'école de l'Esprit Saint. Le charisme, c'est pour les autres, pour les aider. Le charisme, guérison. Le charisme, de prophétie. Le charisme de gouvernement, c'est toujours pour les autres. Le charisme de parler en langue, c'est pour les autres. Et le charisme de la Pentecôte, tous ceux qui écoutaient Pierre, l'écoutaient dans leur propre langue. C'est merveilleux. Donc vous voyez ce qu'est le cerveau sapiens. Quand on doit faire la catéchèse, hein, demander au Seigneur le serment sapientiel pour ne pas diminuer la vérité de Dieu, sous prétexte d'adaptation. On s'adapte, on s'adapte, on s'adapte, on le Jabalan. Aussi, ça veut dire avec beaucoup de force. C'est très bien de s'adapter. Et faites attention. Il ne faut pas qu'au bout d'un certain temps, vous êtes tellement adapté que vous êtes uniquement au niveau horizontal. Et le cardinal Calice, aujourd'hui, le reprend avec beaucoup de force. Il faut garder la verticalité. C'est-à-dire, il faut garder le fait que la parole de Dieu vient toujours d'en haut. Et qu'elle doit remonter vers Dieu. Autre question. Par rapport au lieu que vous avez montré, au lien, pardon, que vous avez montré entre l'obéissance et l'amour, pouvez-vous éclairer deux manières de concevoir l'éducation d'un enfant? Oui, voilà. Celle qui montre qu'un enfant doit obéir à ses parents. Qu'il comprenne pourquoi ou non. Celle qui montre qu'un enfant n'a qu'à obéir. Il ne peut obéir que si chaque fois, que si à chaque fois, on lui explique. Peu ou doit. Et ça, c'est l'art de l'éducation. C'est pas l'art. C'est pas une science. C'est un art. Comme il y a un art d'enseigner. Il y a des gens très compétents qui sont ennuyeux comme la pluie quand ils enseignent. Il y a des gens beaucoup moins compétents que tout le monde écoute. C'est très curieux, ça. Bon, j'en ai constamment. Point de vue éducation, c'est comme ça. Alors, il y a l'éducation chrétienne. Je présume que c'est l'éducation chrétienne qu'on regarde ici. Dans une famille chrétienne. Quand je dis que l'obéissance s'appuie sur l'amour, c'est justement pour montrer ce qu'est l'obéissance chrétienne. L'amour fait qu'entre le père et l'enfant, ou la mère et l'enfant, entre celui qui a autorité et celui qui obéit, il y ait un lien de confiance et d'amour. L'amour divin implique un amour d'amitié. Et l'amour d'amitié implique la confiance. La charité fraternelle, on en parlera demain, j'espère. La charité fraternelle. Parce qu'on ne peut pas parler de la petite Thérèse sans parler de la charité fraternelle. La charité fraternelle fait qu'entre chrétiens ou un chrétien à l'égard des autres hommes, puisque la charité fraternelle est universelle, je dois aimer d'amour, de charité, tous ceux que Jésus a aimés du haut de la croix. Et forcément, cet amour fraternel s'incarne à l'égard d'un petit nombre. Je n'atteins pas tous les autres comme Jésus du haut de la croix. D'abord, je ne peux atteindre que ceux qui sont de ma génération. Je ne peux atteindre que ceux qui sont proches. Même si, grâce à la télévision, à la TSF, j'atteins beaucoup de personnes, mon message n'est plus tout à fait le même. Il n'y a plus le contact direct de personne à personne. Ce que la charité fraternelle réclame, c'est un amour d'amitié. Divin. Puisque c'est un amour d'amitié divin, il réclame la confiance. Il n'y a plus d'amour d'amitié s'il n'y a pas de confiance. Si tout ce que vous dites, tout ce que vous dites n'est pas reçu avec amour, mais est reçu dans un sens opposé, il n'y a plus de confiance. Alors la charité fraternelle ne peut plus s'exercer. La confiance fait que notre première réaction n'est pas de critiquer. Nous appartenons à un monde terriblement critique. Tous, hein, depuis 4 siècles, la critique domine et remplace la contemplation. On peut le dire, parce que je crois que rien ne tue plus la contemplation que la critique. Dès qu'on voit quelqu'un, on voit tout de suite ses défauts. Et on ne voit pas en premier lieu ses qualités. C'est un petit examen de conscience, là. Très bon pendant la retraite. Que la petite Thérèse nous encourage à faire. Ça, j'en suis sûr. On voit tout de suite ses défauts. Et on les voit à travers notre prisme. Ne jugez pas selon les apparences. Regardez dans votre vie tout ce que vous avez jugé selon les apparences. C'est vrai. On a de la peine d'entrer dans les intentions profondes, de comprendre qu'on ne peut pas tout dire. Et on dit donc toujours des choses partielles. Aussi bien quand on enseigne que quand on prêche, on ne peut pas tout dire. Et on opte pour ce qui semble principal et premier. Mais on ne peut pas tout dire, pas possible. Déjà l'essentiel, on ne peut pas le dire, entièrement. On appartient à 4 siècles de critique. Et la philosophie contemporaine met la critique avant la construction. Critiquer, vous voyez bien ce que c'est, hein. C'est bien entendu, ce n'est pas tout à fait ce qu'il faut dire. C'est pas ça du tout. L'ordre que tu mets, c'est pas vrai. Ce que tu dis n'est pas juste. Regarde à côté, ça va beaucoup mieux. Et ainsi de suite, on critique. On critique tout le temps. On doit discerner autant qu'on le peut. Mais un chrétien discerne dans la lumière du Christ. Pas selon ses opinions. On n'a pas le droit de critiquer selon ses opinions. On doit critiquer toujours, si on est chrétien, selon la lumière de la sagesse de Dieu. Et dans ce domaine-là, on est tous à dire, mais à coup de bord, hein. Je suis le premier à le dire. Ce qu'on critique, beaucoup trop. Et on juge selon ses opinions. Même si ce sont des opinions très nobles et très grandes. Et on oublie de regarder l'autre toujours dans la lumière du Christ. Je dirais que c'est la première chose qu'il faut pour l'éducation chrétienne. Les parents sont mandatés par Dieu et par le Christ pour éduquer leurs enfants d'une façon chrétienne. On leur dit ça le jour du baptême. Ils reçoivent cet ordre-là le jour du baptême. Votre enfant vient de recevoir la grâce de Dieu. Il est fils de Dieu. Et vous êtes là pour l'éduquer d'une façon chrétienne. Or, pour éduquer d'une façon chrétienne, il faudrait être des saints. Or, on ne l'est pas encore. On est des saints en herbe. Donc ça pousse encore pas mal, hein. Tous, on serait tous dans le ciel. Si mon Dieu nous laisse longtemps sur la terre, le pauvre n'a de la peine à se sanctifier. Il faut du temps pour sanctifier. Et on essaie de sanctifier. Tous les jours un peu plus. On doit éduquer en demandant à Jésus de nous apprendre à être là auprès du petit, son témoin. On n'éduque pas un enfant au point de vue chrétien selon ce qu'on conçoit nous-mêmes. On demande à Jésus d'être là. C'est la première condition, ce qui donne un regard très différent qu'un regard purement humain. Parce qu'on l'aime comme Jésus l'aime dans la charité fraternelle. Ça, c'est capital. Et quand on sent que cet amour diminue, doit prendre un tout petit peu de distance. Pour qu'auprès de Jésus, on reprenne un véritable amour. Ensuite, dans cet amour, on doit exercer l'autorité. Les parents n'ont pas le droit d'abdiquer l'autorité. C'est le très grand danger aujourd'hui. Parce que vous savez bien, on rejette toujours la faute sur les parents. On rejette toujours la faute sur ceux qui ont exercé l'autorité sur nous. Ça, c'est le pain quotidien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a peur d'exercer l'autorité. Parce qu'on sait que tôt ou tard, ça nous retombera sur le dos. C'est pas très agréable pour les parents de savoir que les enfants les accuseront. Malgré ça, les parents ne peuvent pas attiquer leur autorité. Ainsi que tous ceux qui, d'après la situation sociale qu'ils ont, doivent exercer l'autorité. Le prêtre, il exerce l'autorité. Et le prêtre, aujourd'hui, a à peine exercé l'autorité. Pour le reconnaître. Mais il doit bien distinguer autorité et pouvoir. Distinction nécessaire à faire. Et dans notre vie, comprendre que les parents ont une très grande responsabilité, une grande autorité. Ils ont peu de pouvoir. Alors que le gendarme a peu d'autorité et beaucoup de pouvoir. Et on a augmenté récemment son pouvoir. Respectez pas assez son autorité. C'est très important de distinguer les deux. L'autorité, c'est un service qui ne peut se faire que dans une coopération. Quelqu'un qui refuse de coopérer, on ne peut plus exercer l'autorité. Alors on se tait. C'est mieux. C'est plus miséricordieux. Se tait. Acte d'obéissance est une coopération avec celui qui exerce l'autorité auprès de nous. L'autorité, c'est un service à l'égard de celui auquel on donne un ordre. On donne cet ordre pour son bien. C'est pour lui qu'on donne cet ordre. Pour l'aider à découvrir ce pourquoi il est fait pour découvrir l'amour de Dieu, pour découvrir sa vocation propre, pour découvrir l'appel de Dieu sur lui, pour découvrir ce que le Père réclame de lui. C'est ça, l'exercice de l'autorité. Dire tu dois faire ça, c'est bien de faire ça. Par amour pour le Christ, par amour pour la Vierge Marie. Toujours, tout l'exercice de l'autorité présuppose l'amour et conduit à l'amour, et implique une coopération. Celui qui commande est responsable de cette coopération, et celui qui obéit réalise cette coopération. Donc on fait œuvre commune chez l'éducateur et celui qui est éduqué. C'est une œuvre commune. C'est très important de comprendre ça et de toujours rappeler cela. Parce qu'aujourd'hui, les enfants obéissent jusqu'à quel âge? C'est évident que ça dépend des régions. Ça dépend des familles. Intéressant de faire cette petite enquête. Jusqu'à quel âge? on sait à peu près, des parents un peu lucides savent à peu près jusqu'à quel âge ils peuvent encore demander à leur fils, à leur fille. Et c'est souvent pas la même chose. Ils peuvent demander ça, et puis ils disent non, maintenant c'est plus la peine. S'ils demandent ça, il va faire juste l'inverse. Alors on est tenté de temps en temps de jouer, hein, de demander l'inverse pour qu'il fasse bien. On n'a pas le droit de le faire. L'autorité ne peut pas jouer. Mais on arrête la tentation. On arrête la tentation de faire ça. Puis dire, bah, tu vois, hein, quand même, à vous, hein, je t'aurais demandé ça, tu l'aurais jamais fait. Je te demande l'inverse exprès. Maintenant, tu l'as fait. C'est dangereux, ça. Mais c'est vrai qu'on a très souvent la tentation de faire ça. On a l'impression que tout ce qui vient d'autorité, par définition, est mauvais. Par définition, bohème. Parce qu'on ne regarde plus l'autorité, et on ne regarde plus que le pouvoir. C'est la confusion terrible que le démon a fait avec Freud. Confondre autorité et pouvoir. Et cette confusion, elle est très ancienne. Elle a été mise en pleine lumière avec Freud. Elle est très ancienne. Elle dépend du 14e siècle. Chez un théologien. Et petit à petit, elle a tout pris. Vous voyez, petit examen de conscience. Tous ceux qui exercent autorité. Est-ce que vous avez fait la distinction entre votre autorité et votre pouvoir? Sans être gendarme. Sans être pion. Est-ce que vous avez fait la distinction entre les deux? C'est très important. C'est très vrai, pour exercer l'autorité d'une manière efficace, il faut le pouvoir. Et comme aujourd'hui, l'efficacité est passée avant la finalité. On ne cherche que l'efficacité aujourd'hui. On ne cherche que les résultats. Dieu fait l'inverse. Regardez ce passage dans le livre de Samuel, où le prophète Samuel, envoyé par Dieu pour choisir un roi pour le peuple d'Israël, parce que Saül commence à perdre la tête, le premier roi, il est envoyé dans une maison de la petite tribu des Benjamins, la plus petite tribu. Et là, il demande au père, que tu pourrais me montrer des fils. Le père, c'est que c'est le prophète, il doit y avoir quelque chose derrière. Alors on présente le mieux d'abord. L'aîné, très bien, très très bien. Un bon garçon, bien fait, intelligent, merveilleux, tout mon avenir. Non, c'est pas lui. Puis second, troisième, quatrième. Puis petit dernier, personne n'a pensé à lui. Le père n'a jamais pensé à lui. Le père l'aime bien. Et c'est ce petit dernier que Dieu a choisi. Vous voyez, dans le monde aujourd'hui, on juge les gens d'après leurs résultats. C'est pas un regard divin. Je regrette. Qu'on soit attentif aux résultats, c'est sûr, mais pas en premier lieu. En premier lieu, on regarde sa capacité d'aimer, ses intentions profondes, le but profond de sa vie. C'est ça qu'on regarde en premier lieu. Et ensuite, on désire qu'il y ait des résultats. Oui. Quand il n'y a plus de résultats, c'est ennuyeux. Il faut qu'il y ait des résultats. Mais des résultats dans cette ligne d'un amour. C'est l'amour qui porte les résultats et qui porte l'efficacité. Et quand l'efficacité ne provient plus de l'amour, ça devient terrible. Il faut comprendre ça aujourd'hui, parce qu'on vit dans ce monde qui se laïcise par l'efficacité. Alors il ne faut pas coopérer à cette laïcisation. Ce serait grave. En premier lieu, essayons de comprendre la capacité d'amour de chacun. Je sais très bien, c'est un regard divin. Par l'amour et par le don de sagesse qui nous est donné, nous avons tous, hein, avec la charité. Essayons d'avoir un regard divin sur les choses. Le regard de la petite Thérèse. C'est pour ça qu'elle est si merveilleuse. Parce qu'elle a tout le temps un regard divin. Et on a vu des livres écrits sur la petite Thérèse en essayant de comprendre l'état du Carmel de son temps. Alors je vous affirme, c'est pas très édifiant ces livres. On voit que ce Carmel... Quand même du temps. Je ne dis pas qu'il a écrit, c'est pas la peine. Vous précipiterez dessus. Et je vois la petite Thérèse. Et le regard de Dieu. Ce Carmel a quand même fait une œuvre merveilleuse. Il a permis qu'il y ait cette petite sainte. C'est possible que tu aies choisi le Carmel le plus imbécile qui soit. Le Carmel, le moins charitable qui soit, c'est possible. C'est possible, c'est pas nous à juger. Hein. Nous, on voit le fruit. Puis on voit le regard de la petite Thérèse sur ses sœurs. Les hommes sont terribles aujourd'hui. Parce qu'ils critiquent tout. Et quand on critique tout, on crée un terrain stérile. La stérilité est le fruit direct de la critique quand elle est première. Ça tue l'amour. Et ça provient de la primauté de l'efficacité qui s'est introduite même dans l'Église et même chez des hommes d'Église. C'est la seule chose qu'ils regardent. Je crois qu'on doit être très attentif. Vous voyez, et là, la petite Thérèse est merveilleuse, hein. On ne peut pas aimer la petite Thérèse si, justement, on ne voit pas ça tout de suite en elle. Le regard de Dieu. Le prophète Samuel, c'est un très grand prophète. Et le choix de Dieu sur le petit David. Et le petit David, c'est pas n'importe quel roi. Alors, il y a le regard du père. Petit Benjamin, il est bon à aller surveiller les bêtes, les ânesses, tout le bétail. Et voilà que Dieu choisit pour être roi d'Israël. Succession de Saül, ce qui n'est pas commode. Ça, c'est le regard de Dieu. Essayons de temps en temps, hein, de faire comme elle le disait, ce bain de soleil. Qu'est-ce que ce bain de soleil? C'est d'essayer de regarder tous ceux qui sont autour de nous dans le regard du Christ. Et dans le regard du Christ crucifié. Et dans le regard de Marie. Regardons tous ceux qui sont autour de nous. Tous ceux avec qui on exerce des relations de charité. Les regarder dans le regard de ce soleil d'amour qui est le cœur du Christ. C'est nécessaire de faire ça. Tous les jours. Tous les jours on devrait le faire. C'est ça notre examen de conscience. Divin. En premier lieu, c'est cela. Est-ce que nous sommes en harmonie avec le regard de Dieu sur tous ceux qui sont proches de nous? Alors voyez, le regard des parents sur leur enfant, comme éducateur, c'est ce qu'il doit faire en premier lieu. Ensuite, ils doivent comprendre qu'ils sont là pour éduquer leur enfant à la place du Christ. Ils tiennent la place du Christ pour leurs enfants. Le Père et la Mère. Alors essayez de faire que le Père et la Mère soient toujours en très grande union. La chose la plus terrible dans l'éducation, c'est quand le Père et la Mère ne sont pas en harmonie et que la Mère essaie de se rattraper sur le pouvoir du Père. Je dis pas l'autorité, je dis le pouvoir du Père. Alors elle fait ça quand le Père est absent. Et l'enfant comprend tout. Et quand il voit qu'il y a possibilité de passer entre les deux, chaque fois il fait ça. Chaque fois. C'est pas bête. Il n'aime pas d'obéir, comme voulez-vous. C'est normal, conséquence du péché originel, l'orgueil. L'orgueil, c'est ce qui nous empêche de vieillir. Si on était humble, on vieillirait tout de suite. L'orgueil, c'est terrible. Ça nous met en opposition vis-à-vis de toute autorité. Parce que l'autorité est autre que nous. Alors que dans l'orgueil, on désire toujours être premier. Donc tout vient de nous. Et on n'accepte que ce qui vient de nous. N'est intelligent que ce qui vient de moi. C'est curieux, mais c'est comme ça. Alors on l'avoue pas, parce que c'est gros, hein, c'est la grosse vanité. Mais dans le fond, hein, y a le grand mystère. Hein, l'éducation des parents, que Dieu est chargé des parents avec la grâce du sacrement de mariage, avec la grâce du sacrement de baptême. Et le sacrement de baptême lie les enfants à l'autorité des parents. C'est ça qui est impressionnant. Il les met. Et la confirmation viendra là aussi, peut-être, pour choisir les autorités complémentaires. C'est le sacrement de confirmation, ça. Il faut des autorités complémentaires aux parents. Quand le petit enfant est tout petit, les parents suffisent. Mais très vite. Et la confirmation est faite pour que nous ayons suffisamment de sens de l'autorité divine pour comprendre qu'à côté des parents, il faut d'autres autorités complémentaires qui viennent permettre cela. Alors, si c'est dans ce climat-là, vous comprenez très bien que tous les commandements des parents se feront toujours dans un climat de confiance et d'amour. Pour expliquer à l'enfant, surtout quand c'est difficile, pourquoi on lui demande ça. C'est bon d'éduquer l'obéissance en expliquant, en faisant comprendre. Je suis obligé de te dire ça. Je sais que c'est dur, mais je serai là, je t'aiderai, t'inquiète pas. Et puis, tu plais énormément à Jésus en faisant ça. Ça, ça dépend du contexte. Je me souviendrai toute ma vie ce qu'une mère de famille m'a dit. Ça se passait à Genève. Je connaissais une mère de famille qui était assez impulsive, très intelligente, mais très impulsive. Il y a des moments par le fait même un peu colérique. Elle avait un petit garçon délicieux, absolument délicieux. Petit garçon de 4 ans. La mère doit prendre le train. Dès qu'on prend le train, on est toujours en retard pour faire ses valises. Surtout les femmes, n'est-ce pas? Pour les valises, c'est quelque chose qui met du temps. Alors elle est pressée, voici, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit son petit garçon assis sur un divan qui regarde sa mère. Alors elle dit, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi? Tu pourrais pas m'aider? Mais quoi, tu ne pourrais pas m'aider? Maman, quand tu me le diras autrement, je t'obéirai. C'est merveilleux, ça. Hein, c'est un dialogue mené par l'Esprit Saint. Parce que les enfants éduquent. Merveilleusement. Surtout quand ils sont intelligents. Alors, vous voyez, tout acte d'autorité réclame la prudence. Tout acte d'obéissance réclame la prudence. Je ne peux pas faire un acte d'autorité au plan chrétien sans la vertu de prudence. C'est-à-dire le temps opportun. Il y a un temps opportun pour faire la remarque. Il y a un temps qui ne l'est pas. Et pour l'obéissance, c'est aussi la même chose. Il y a une façon de demander les choses, il y a une façon de recevoir l'ordre dans cet amour. Et ça, il ne faut jamais oublier que je n'abdique pas ma prudence en obéissant. Mais ce que je fais, c'est de considérer que celui qui me commande autorité sur moi,
Et ma prudence me montre jusqu'où est l'autorité. Pourquoi a-t-il autorité? Est-ce que c'est une autorité divine ou humaine? Et je sais jusqu'où va son mandat. Et alors, la prudence consiste à dire, pour moi, mon plus grand bien, c'est d'obéir à quelqu'un qui exerce l'autorité divine sur moi. C'est mon plus grand bien. Ça, c'est la prudence qui dit ça. Et alors, j'accepte de faire que ce que j'aurais fait si j'avais été seul, ce que j'aurais fait selon mon petit gouvernail à moi, j'accepte que l'autorité passe devant. Et si cet acte d'autorité est trop violent, je supplie, grâce à ma prudence, je supplie celui qui exerce autorité sur moi et dire, écoutez, je ne sais pas si c'est tout à fait ce qu'il faut faire maintenant. Je n'en peux plus. Je suis trop fatigué. Je ne peux pas faire ça. C'est trop difficile pour moi. On demande un tout petit peu de temps, de repos. On demande de prendre un peu de distance. Ça, c'est la prudence. Dieu nous demande d'exercer notre prudence, transformée par l'amour et transformée par le don de conseil. Le don de conseil, don du Saint-Esprit. C'est très difficile d'exercer l'obéissance, d'exercer l'autorité et l'obéissance aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut souvent demander à l'Esprit Saint. Il faut souvent demander à l'Esprit Saint. Il faut exercer cette autorité et cette obéissance dans ce climat de charité. On me pose une question, mais je ne vais pas m'arrêter à ça, parce que c'est trop compliqué. L'affaire Galilée, l'affaire des croisades, et etc. Vous voyez, est-ce que l'Église peut se tromper? C'est évident que l'Église ne se trompe pas dans la matière des dogmes. Et en question morale, c'est-à-dire vis-à-vis de la finalité de l'homme. Mais dès qu'intervient d'autres domaines, l'Église peut manquer de prudence. Ça peut très bien se faire. Et qui doit corriger l'Église? Et comment la corriger? Oui, c'est là la question de la prudence. Mais c'est très difficile d'être un homme prudent, sage dans la prudence. Il faut beaucoup d'expérience. Parce qu'on est tous un peu, dans le monde d'aujourd'hui, des poulains sauvages, hein. Quelquefois des purs sangs. On n'aime pas beaucoup l'autorité humaine, l'autorité de l'Église. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui, il faut bien voir ça. La dernière fois que j'ai vu le Saint-Père, il m'a dit, Père, c'est dur de sentir la haine contre vous. C'est dur de sentir tous ceux qui vous critiquent. Il m'a pas dit, mais c'était ce qu'il voulait dire. Qui attendent ma mort. Saint-Père le sait. Et c'est la première fois qu'il disait ça. Parce que c'est vrai. On sent aujourd'hui combien c'est difficile d'exercer l'autorité. Et pour le pape, comme c'est difficile. Il exerce son autorité. Et c'est beau, sachant très bien toutes les critiques. Alors, on doit au moins avoir la délicatesse de ne pas critiquer en public. Quand il s'agit d'un père, comme le Saint-Père, peux très bien dire il y a des choses que je comprends pas. Alors on essaie de s'éclairer. Et si on veut s'éclairer, le Seigneur nous donnera la lumière, tout le temps. Mais il faut qu'on soit très attentif là-dessus, et qu'on demande au Saint-Esprit cette discrétion à l'égard de l'exercice de l'autorité. La confiance demeure, qu'il n'y ait pas de rupture. Lorsque vous parlez de la tristesse, avez-vous pensé un seul instant que l'on pouvait être triste sans le vouloir? Je comprends, on est toujours triste sans le vouloir. Moi, je regrette, chaque fois que je suis triste, c'est sans le vouloir. Je ne veux pas être triste. Et je lutte contre la tristesse. C'est évident, la tristesse, c'est quelque chose qui nous tombe sur la tête, ou sur le cœur. Donc il est triste. Donc avez-vous réfléchi un seul instant que l'on pouvait être triste sans le vouloir, souffrir atrocement de ne plus pouvoir pleurer, alors qu'on le désirait, c'est sûr. La tristesse peut aller jusque-là. La tristesse du Christ à l'agonie. On doit beaucoup méditer et vivre de la tristesse du Christ à l'agonie. Tristesse intérieure. Tristesse divine. C'est la tristesse divine qui est la plus dure à porter. Et la plus lourde. Et la tristesse humaine. La tristesse dans un foyer. La tristesse de tous ceux qui ne sont pas fidèles, qui vous blessent, qui vous font mal, et qu'on doit porter dans le silence, et qu'on confie à Marie. C'est Marie qui est la confidente de toutes nos tristesses, et qui fait que, extérieurement, on doit garder pour ne pas faire peser aux autres. Extérieurement, on garde la joie. Ou une joie paisible, pas exubérante, mais une joie vraie, profonde. La pire des souffrances, c'est de se voir triste, alors qu'on voudrait être joyeux. De ça, de ce pouvoir, de ne pouvoir pleurer alors qu'on le désire. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Ce qu'il y a de plus profond, c'est la tristesse. C'est ce qu'il y a de plus radical. Alors, il y a des niveaux de tristesse. La tristesse est d'abord passionnelle. Il y a une tristesse passionnelle au niveau affectif. C'est le mal présent qui nous blesse. Un ami trahi. Il y a un aspect passionnel qui nous blesse. La tristesse de celui qui a exprimé ses désirs et qui n'est pas écouté. Alors à ce moment-là, il n'a plus confiance en moi. Et c'est terrible, ça. Il y a une tristesse, mais qui va plus loin que l'aspect passionnel. La tristesse au niveau profond du cœur. Point de vue humain. Sentir que ceux qui sont proches de nous n'ont plus confiance et ne nous aiment plus. C'est la tristesse du cœur spirituel, ça. C'est une tristesse divine. Celle que Jésus a subie à l'agonie. Tristesse divine. Qui est la tristesse de voir que Dieu Dieu a tant aimé les hommes. Et les hommes l'aiment si peu. Autant qu'on peut juger, les hommes l'oublient. Ils oublient le Christ crucifié. Ils oublient le Père. C'est terrible, ça. Et les hommes, quelquefois, non seulement l'oublient, mais l'injurient. Le traite de tous les noms, jusqu'à dire Dieu n'existe pas. La tristesse qui provient de l'orgueil des hommes. Et vous voyez, toute tristesse est violente et vient de l'extérieur. Toute tristesse. Après, venue de l'extérieur, elle peut nous envahir. Devenir immanente. C'est pour ça que elle n'est jamais voulue. Elle tombe là, nette. Elle est glaciale. Elle rend notre cœur glacial. Elle peut inhiber complètement notre cœur, notre volonté. Et elle a des répercussions passionnelles. Les répercussions passionnelles, vous voyez, c'est justement de nous inhiber, de faire que notre visage devient triste. Les pleurs peuvent soulager, et les pleurs, quelquefois, ne soulagent pas beaucoup, car la tristesse est divine et très profonde. Et dans l'agonie, l'amour qui unit le cœur de Jésus à son Père est victorieux de cette tristesse. Jésus ne se laisse pas abattre par la tristesse. Marie non plus. C'est ça la grande victoire, qui ne supprime pas la tristesse, qui la laisse et qui fait qu'on la vit avec une acuité beaucoup plus grande. Parce que celui qui s'abandonne à la tristesse fait que la tristesse rend moins vulnérable. Tandis que celui qui reste debout tout en portant la tristesse, il vit la tristesse avec une acuité beaucoup plus profonde. L'acuité de l'amour. Et la tristesse peut conduire à l'angoisse. L'angoisse n'est pas la tristesse. La tristesse peut conduire à l'angoisse. Comme la souffrance peut conduire à l'angoisse. Comme la fragilité peut conduire à l'angoisse. Le problème de l'angoisse, c'est qu'on ne peut plus préciser ce pourquoi on est angoissé. Tandis que dans la tristesse, on sait toujours ce qui nous rend triste. On sait pourquoi on est. Tandis que dans l'angoisse, on est plongé dans l'angoisse. C'est le côté d'immanence de l'angoisse. Il y a eu toujours un choc extérieur. Et l'angoisse est immanente. Dernière question. Pouvez-vous nous parler de Sarah ? Oui. Il y a quelqu'un qui a été scandalisé de la manière dont je parlais de Sarah. J'aime beaucoup Sarah, c'est pour ça que j'en parle. C'est vrai, il y a une Sarah, mais qui est très aimée de Dieu. La preuve, c'est que Sarah fait partie de toutes les grandes figures de Marie. Mais sur une pointe. Alors j'ai vu, évidemment, un aspect peut-être un peu noir de Sarah. Mais comprenez bien, Sarah est quand même l'épouse d'Abraham. Elle était très belle. Elle était très belle. Parce qu'Abraham avait bon goût. Il a choisi quelqu'un de bien. Elle est épouse. C'est sûr que Sarah est quelqu'un qui a été fidèle. Elle était magnanime. Puisque quand elle n'avait pas d'enfant, en raison de sa stérilité, elle a permis qu'Abraham ait un enfant de sa servante. Et ça, c'est le côté magnanime de ça. C'est le côté grand. Mais il peut très bien arriver que des gens qui sont très magnanimes n'arrivent pas à se maintenir au niveau de leur magnanimité. Il y a les lendemains de la magnanimité. Et on peut dire que là, on voit le lendemain. Alors évidemment, j'ai vu que le lendemain, je m'en excuse, parce que il y a ce côté très beau et très grand. Car tout ce qui est dit dans l'Écriture nous dresse. Et c'est ça qui est très beau, c'est qu'on voit les chutes de quelqu'un d'aussi magnanime que ça. Et la chute, elle se fait par une sorte de jalousie. La jalousie, c'est terrible. Elle fait que même des êtres très nobles, après, des chutes, des descentes, qui sont beaucoup moins nobles, et qui ne sont plus au niveau de leur magnanimité. Alors, corriger ce que j'ai dit sur Sarah, par le côté magnanime de Sarah, et qu'elle était très belle, et qu'Abraham l'aimait beaucoup, qu'Abraham l'avait choisi, et que Sarah, grâce à Dieu, a eu un fils admirable, Isaac. Et il faut dire aussi que Sarah était un peu captative. On le voit bien pour le petit Isaac. Elle avait attendu si longtemps avant d'avoir un enfant, je comprends. Un peu. C'est dit d'une façon très belle. On voit que Isaac était incapable de choisir une épouse. Et Abraham avait très bien compris ça. Il a envoyé une serviteur. Un sage serviteur. Choisir pour son fils Isaac. Choisir quelqu'un. Et on voit très bien que Isaac a mis du temps avant d'aimer Sarah. Je veux dire, Isaac a mis du temps avant de choisir d'aimer Rebecca. Il a mis du temps. Je crois qu'Abraham n'a pas mis beaucoup de temps pour aimer Sarah. Alors n'hésitez pas à poser vos questions quand ces questions vraiment sont pour vous de vraies questions. Parce que j'aime pas qu'on reste devant une question.